Bonjour Lionel Fourré, tu étais vice-président de l'asso Technopole dans ses débuts et donc un des fondateurs de la Technoparade. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et dans quel contexte a été fondée l'association Technopole ?
En fait, il faut se resituer effectivement dans le contexte des années, du milieu des années 90 où la répression a été très très forte sur le mouvement techno et tout ce qui était rêve. Et de plus en plus, les autorités interdisaient ces événements officiels et payants pour des raisons, ils prétextaient pour des raisons de sécurité. Et en fait, le mouvement professionnel de cette époque s'est organisé et regroupé au sein d'une association après une annulation d'une soirée à Lyon, qui s'est appelé Technopole. Voilà, au départ, c'était vraiment de se faire entendre et de défendre les organisateurs. La Technoparade, en fait, elle est née pendant l'été 98, printemps et été 98, suite à un voyage de Michel Pilot, Henri Morel et de Jacques Lang à la Love Parade de Berlin. Et ils se sont dit, tiens, ça serait bien que ça existe en France. Et le rapprochement entre Technopole et ces personnalités de la musique électronique qui sont Henri Morel et Michel Pilot, l'idée est née de faire ça au mois de septembre.
Alors, 98. Ouais, du coup, l'association Technopole, c'est un peu né du besoin d'avoir une légitimité et puis d'avoir une structure pour discuter avec les pouvoirs publics, c'est un peu ça.
Oui, c'est vraiment l'idée au départ. Et en fait, l'idée d'avoir une manifestation revendicative et montrant ce que c'est la musique électronique au grand public, c'était un moyen de communication.
Tu expliquais que c'était compliqué dans le milieu des années 90 d'organiser des soirées. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le niveau de l'opinion publique et l'image peut-être un peu déformée qu'avait le mouvement techno dans l'opinion publique?
C'est vrai que quand on se situe aujourd'hui en 2018 et qu'on voit des Bob Sinclair aller sur des chaînes comme BFM et faire des interviews où Martin Solveig et ou Laurent Garnier et David Guetta et plein d'autres, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que dans les années 90, le mouvement électronique, qui était très organisé, les gens qui organisaient, pour la plupart, ce que je vais appeler les professionnels, bien qu'ils n'avaient pas, on va dire, des structures juridiques en tant qu'entreprise, mais ils avaient des assos, ils avaient des agents de sécurité, il y avait des pompiers, la sécurité civile, il y avait vraiment un déploiement d'énergie très forte. Mais malgré tout, ce professionnalisme-là, dans les milieux 90, on avait cette image de drogué, un peu à la Woodstock, des marginaux, voilà. Du coup, parce que il est arrivé que, malgré cette organisation, ça se retrouvait un peu dans des usines, bien qu'elles étaient louées pour la plupart du temps, elles avaient une image de trouble à l'ordre public, en tout cas, pour un bon nombre. Du coup, même les organisations de soirées officielles, comme les Borealis, parce que c'est une soirée organisée par les Pingouins à Lyon qui a été annulée, ces organisations officielles et très organisées pâtissaient de cette image-là, en fait. Du coup, les maires et les préfets interdisaient à tour de bras toutes les soirées. Il faut imaginer même une soirée de Laurent Garnier à Amiens, qui s'appelait Oz, qui était organisé par un magazine qui s'appelait Coda à l'époque, a été annulé. Vraiment tout le monde subissait de façon sans objectivité de l'organisation au titre des troubles à l'ordre public.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence pour les pouvoirs publics entre des petites structures un peu à l'arrache et puis des assos vraiment légitimes et qui avaient prouvé leur savoir-faire, quoi.
Effectivement, mais même des organisateurs de concerts de rock qui avaient 15 ans, 20 ans de métier, dès qu'ils se mettaient à faire de la musique électronique, bing, ils avaient une annulation, quoi. Une interdiction plutôt. Une interdiction préfectorale. Pour tout, j'avais trouvé à leur public, ils avaient peur qu'il y ait de la drogue, Il y avait de la drogue, mais même dans les années 90, qui est les lieux où il n'y avait pas de drogue, quoi.
Oui, et puis dans les concerts de rock aussi.
Oui, non, mais voilà, dans les concerts de reggae, ou dans tout mouvement, rassemblement, il y a de la drogue. Et il n'y en avait pas plus là qu'ailleurs.
Et alors, après, à la fin des années 90, on a eu un petit glissement dans l'opinion publique. Alors, avec, il y a eu notamment l'arrivée des Daft Punk sur le devant de la scène. Il y a eu la victoire de la musique électronique de Laurent Garnier.
97-98, ouais.
Ouais, c'est ça, l'arrivée de la French Touch et tout. Comment, pour toi, c'est quelque chose qui a participé à rendre la techno plus visible et puis aussi plus acceptable, on va dire?
Oui, c'est. Mais en interne, Technopole, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y avait. C'est l'émergence entre deux courants, on va dire, parce que il y a dans ces années 97-98, malgré tout, les free parties qui sont là depuis un petit moment, mais ils sont vraiment installés dans le paysage, ce qui est venu un peu troubler, malgré tout, ce milieu professionnel qui est désorganisé. Mais en même temps, tu avais effectivement cette émergence de ce professionnalisme et de ces stars qui sont devenus les Daft Punk et Laurent Garnier au niveau de l'opinion publique. Et en même temps, dans le même mouvement, tu as les free parties qui défraient la chronique, quoi. Donc, l'opinion publique et Saint-Germain aussi, qui arrivera derrière, a permis de faire comprendre et en même temps une génération qui vit. Je fais partie de cette première génération, on avait 20 ans en 93, et donc on commence à avoir 25, 30 ans, à être dans des situations plus confortables, entre guillemets, et plus reconnues dans les métiers. On arrive à porter une parole, mais malgré tout, les annulations continuent, quoi.
Et le côté peut-être business aussi, c'est-à-dire que c'est au moment où les grands médias, les gros labels ont compris qu'il y avait un peu d'argent à se faire, que les portes se sont ouvertes. Est-ce que tu le vois comme ça ou pas?
Non, parce que pas vraiment, parce que les annulations, malgré tout, bien que les ministres de l'époque viennent sur la technoparade, bien que Jacques Lang soit présent et pousse, hein, ça a été vraiment une personnalité importante pour la musique électronique. Malgré tout ça, Ça avait du mal à évoluer encore à l'époque. Ça avait encore du mal à évoluer. Et le problème, c'est qu'à la fin des années 90, tu as tout un milieu professionnel qui va disparaître parce que, par des, entre guillemets, des dépôts de bilan, parce qu'ils ont subi une annulation. Et quand tu subis une annulation, une interdiction sur un événement, ça te coûte beaucoup d'argent, quoi. Donc tu as tout un milieu professionnel qui va disparaître et toute une génération de DJ qui va disparaître aussi, par conséquence.
Ouais, c'était l'époque de l'amendement Mariani, c'est ça qui avait fait pas mal de mal au mouvement.
Mariani, c'est un peu plus tard, c'est 2000, mais ils visent les free parties au départ, mais en même temps, tout le monde est touché par ces interdictions. Quoi. Parce que il y a un amalgame entre le milieu professionnel ou semi-professionnel ou en voie de professionnalisation, et les free parties qui sont juste à côté. Et nombreux, il faut se souvenir que dans les années 95, 97, il y a les free parties, en fait, ça colle aux événements dits officiels, et ils appellent ça les fuck parties. Donc ils font les fuck Borealis, ils font les fuck, et c'est entre guillemets les forces de l'ordre sont sur les soirées officielles, et à côté de ça, les free parties n'ont pas, comme ils ne sont pas trop gênés, ils n'ont pas la même visibilité à ce moment-là, ils sont plus underground, et les gendarmes étant sur la grosse, ou les polices étant sur les forces de l'ordre étant sur la grosse, ben les free parties se développent.
Et ouais, donc les fuck, il y avait les fuck parades aussi en Allemagne.
Justement, ouais, tout ce mouvement fuck, à titre personnel, j'ai jamais compris, mais voilà.
Ouais, justement, quel pouvait être le regard que portaient les membres de Technopole, par exemple, sur cette espèce de dualité entre l'underground et puis la technoparade qui s'installait au grand jour, en fait?
Bah, en fait, le conseil d'administration et Technopole à l'époque a, on va dire, deux courants. le courant, effectivement, qui veut se professionnaliser, qui veut vivre de son métier, de sa passion, et ce qui me semble plutôt légitime à titre personnel, mais et le courant dedans, en interne, de gens qui sont issus de ce courant-là, gratuit, pas d'organisation, alternatif, on dirait aujourd'hui. On appellerait ça alternatif, quoi. Mais c'est les deux courants, et jusqu'en 2000, en fait, le courant, on va dire, plutôt officiel, à la main, il tient la machine, et après, c'est un peu différent.
D'accord. On va revenir un petit peu sur la toute première Technoparade, donc c'était 98, c'est ça ?
98, ouais.
98, et elle a lieu 9 ans après la première Love Parade allemande. Ouais. Comment, toi, tu expliques ce décalage temporel entre deux pays qui sont pourtant assez proches ?
Ben, il y a aussi la Street Parade à Zurich. Le pouvoir public, hein, je crois que... Et aussi... les Allemands et les Suisses, que je connais aussi, ont un rapport à l'organisation qui n'est pas le même. Là, en ce moment, il y a une polémique sur les organisateurs internationaux qui viennent s'installer en France. Bon, quand on voyait les organisations allemandes ou suisses, où on voyait des grosses marques, déjà à l'époque, aider au financement des soirées et des événements, c'est aussi ça qui change le fait de pouvoir organiser. Une technoparade, ça coûte beaucoup d'argent à organiser. Et je pense qu'au-delà de la problématique des autorités, il y avait aussi un problème économique pour organiser un tel événement.
Alors justement, sur des aspects très concrets, une technoparade, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Toi, au moment où tu faisais partie de Technopole, quelles étaient les sources de financement principales ?
Alors, c'est plusieurs millions de francs à l'époque. C'est plusieurs millions de francs. Et à mon avis, de mémoire, ça devait être entre 2 et 3 millions, donc ce qui te fait 300 000 à 450 000 euros aujourd'hui, ouais. Voire un peu plus avec l'inflation. Les premières ressources, c'est un producteur extérieur qui cherche des partenaires financiers. Et là, à ce moment-là, c'est aussi beaucoup de ministères qui nous aident. Ministère de la Culture, ministère de la Jeunesse, aussi en partie pour tout ce qui est les rendez-vous électroniques et l'inter-rendez-vous qui a englobé la Technoparade, qui nous aide aussi. La ville de Paris, pas la ville de Paris à l'époque, mais la région, voilà un peu le tour, ouais.
Ok, donc plutôt des partenaires institutionnels et puis un producteur privé à côté.
Oui, producteur, il faut pas oublier qu'à cette époque-là, M6 est partenaire, Libé est partenaire des rendez-vous électroniques, Radio FG bien sûr, de mémoire Fun Radio, aussi sur Technoparade. Donc voilà, des gros partenaires institutionnels qui aujourd'hui, sauf erreur de ma mémoire, ils ne sont plus là, quoi.
Au niveau sécurité, alors on se rappelle du drame de la Love Parade à Duisbourg en 2010, qui avait carrément mis un terme à la manifestation en Allemagne. J'imagine que ce type de risque, ça doit être quelque chose qui doit peser sur les orgas. Comment on prend en compte ça ? Et puis, il faut vraiment se méfier, puisque on sait que les politiques vont être prêts à sauter sur... n'importe quel problème pour décrédibiliser le mouvement, quoi.
Alors, bon, la préfecture de Paris est très organisée, a l'habitude de gérer les mouvements de foule. Hein. C'est aussi pour ça que Technopode, à l'époque, s'était appuyé sur un producteur très connu, parce que c'était le producteur du Carnaval de Nice. C'était aussi celui qui avait fait... les chandelés sur les Champs-Élysées et l'exposition des avions aussi sur les Champs-Élysées. Donc c'était un producteur qui a été connu par les autorités. Donc ils avaient un rapport de confiance à lui qui était important. Ça, c'est quelque chose qui est important quand on organise un tel événement. Et ensuite, on travaille avec la préfecture et les autorités compétentes, Paris et tous les services, afin de canaliser... et de sécuriser sur le cortège. Faut savoir que sur les cortèges, dès qu'on sortait du cortège officiel, il y avait des CRS partout, quoi. Comme une manifestation syndicaliste traditionnelle, on va dire. Non, ce qui a un peu surpris à l'époque, et à titre personnel, et je pense qu'on était tous dans le même état, c'est quand il y a eu des violences urbaines, quoi. Ça, je pense qu'effectivement, on a tous été, à l'époque, en 98, très très surpris. Aujourd'hui, on connaît ce phénomène-là, mais en 98, c'était un peu le début, quoi. Et on a subi un peu, on a subi sur les trois technoparades que je connais bien, 98, 99, 2000, on les a subis.
Et du coup, c'est comment ça se règle ?
Franchement, ça se règle pas, quoi.
Oui, donc
sur 98, on a tous été surpris. Moi, j'étais voir les CRS en disant il faut agir. Et place de la nation, mes gens m'ont répondu on peut pas parce que si on rentre dans le tas et on tape sur tout le monde. Donc voilà. 99, on a essayé de canaliser avec une fin de manifestation sur la pelouse d'Ory où il y a la foire des trônes, afin de sécuriser, mais c'était aussi très compliqué à sécuriser. C'était un problème. C'est aussi pour ça qu'il y a une génération qui, à la fin de 2000, après trois technoparades, tourne la page, quoi.
Mmh. Ok. Sur la première technoparade, est-ce que tu te souviens combien de personnes ça avait rassemblé et puis quelle a été l'évolution au cours des années?
Alors, je crois de mémoire, sur les trois, on va dire, on est autour de 500 000, je crois. On est entre 400 et 500 000 avec, je crois qu'on doit peut-être passer les 500 000 à un certain moment, mais de mémoire, j'ai plus les chiffres. Mais ça, la technoparade étant une des plus grosses manifestations de rue à l'époque à Paris, quoi.
D'accord. Au niveau un peu ce qui se passe en Europe, quels sont les autres événements, les autres mouvements du même type en Europe, dans le monde, et puis quelles sont les passerelles ou les collaborations éventuelles qu'il y aurait pu avoir entre différents événements du même type, Love Parade, Street Parade à Zurich.
À l'époque, il y a par les mêmes personnes comme Michel Pilot, il y a des discussions avec la Love Parade, mais ça, à l'époque, il n'y en a pas plus que ça. Effectivement, après, il y a l'idée d'inviter, il y a eu Rio, il y a eu des invités, parce que je pense qu'ils ont été un peu, ils ont cherché à thématiser un peu chaque année. Sur ces trois premières éditions, il n'y en a pas. Ce qu'on cherchait à l'époque, c'était plutôt la notoriété en France, le fait d'être capable financièrement de le faire, parce que c'était à chaque fois un grand défi. C'est un défi de chercher des centaines de milliers d'euros. C'est toujours compliqué. Et de le faire grossir aussi par rapport aux médias. C'est moi qui ai beaucoup géré les relations avec M6 à l'époque. Ça a été vraiment à chaque fois des grosses réunions. Il y avait du direct sur M6 et W9 à l'époque. C'était ça. Mais il n'y avait pas particulièrement de dialogue avec les autres manifestations. Et la différence, c'est qu'à l'étranger, c'était des boîtes, quoi.
Ah oui, c'est vrai que le côté associatif, c'est très français.
C'est ça, c'est associatif qui cherche de l'argent public, c'est français. Ça. La Love Parade, la Street Parade, c'est des boîtes, quoi. C'est pas des associations entre guillemets corporatistes.
Hein. Ouais, c'est vrai que c'est le.
Mais je crois que ça change tout, quoi. Je pense que ça change tout. Moi, je pars en 2000 parce qu'à un certain moment. Il y a un dialogue de dire on refait l'événement en interne et on fait quelque chose underground, sans les marques, sans rien. Mais je leur ai dit, mais vous êtes fous, c'est pas possible, quoi. Et on voit aujourd'hui la technoparade en termes de notoriété, c'est beaucoup moins fort en termes de notoriété que ces trois années-là.
Ouais.
Et quand je dis ça, c'est gentil, pas une gloire de notre époque ou ou parce que j'étais aux responsabilités. Alors, en partie, mais non, c'est parce qu'il y a un moment, ça demande de l'argent, ça demande de l'énergie, ça demande des équipes, ça demande de l'exposition, quoi.
Tu vas me dire si t'es d'accord avec ça, mais le côté underground, c'était peut-être même un peu tard, vu que la techno avait fait le pas vers le grand public, en fait.
Oui, et il faut se trouver, en plus, quand il y a ce virage-là, bon, avec des problèmes de sécurité, mais ça, c'est, on n'y pouvait rien, c'était pas nous, mais c'était le début de ce qu'on connaît aujourd'hui en urbain. Mais il faut se souvenir qu'après, les gros stars, les Daft Punk ou autres, ne viennent pas. En fait, dans l'agenda des grosses stars, la technoparade n'est plus dans leur planning.
Oui, parce qu'il y a cette volonté plus
underground. Oui, il y a cette volonté underground. Voilà. Carl Cox vient au début, on ne revient pas après. Et je connais pas, j'ai pas regardé la liste. Là, ils ont repris depuis un ou deux ans un virage un peu plus overground sur la technoparade avec des recherches de stars. Mais voilà, pendant une dizaine d'années, c'était calme, quoi.
Alors pour conclure, au-delà de la technoparade, mais plus sur le mouvement house et techno qui a maintenant plus de 30 ans, comment toi tu as vu l'évolution à la fois des musiques et puis des mentalités autour des mouvements ?
Ce qu'on peut constater, c'est que malheureusement en France, la musique électronique, elle est omniprésente. Mais il y a de moins en moins de soirées. Il y a plein de villes où c'était des spots, on va dire ça, mais aujourd'hui ils ont un peu disparu. Que c'est pour les DJ qui veulent devenir faire carrière, c'est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui. C'est les producteurs, c'est comment ils deviennent reconnus et ils arrivent à faire carrière parce qu'ils vendent des disques. En tout cas, ils vendent des disques, c'est un grand mot, mais en tout cas, leurs productions sont très populaires. C'est là-dessus, moi j'ai connu une génération qui, aux forces de tournées, de soirées et autres, devenait très populaire et faisait carrière. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas.
Alors c'est dû au fait que quoi, il y a trop de DJ, il n'y a plus assez de place pour jouer.
Moins de soirées.
Ouais.
Moins de soirées, donc pour tourner tout le temps, c'est plus compliqué. Et ça veut dire que tu dois faire tout de suite une carrière internationale, et ça passe par la production. Et ça, c'est un virage qui date de 2000, en fait. J'étais agent à ce moment-là, et je me souviens d'avoir dit à mes artistes de l'époque, il faut produire, parce qu'autrement, ce sera de plus en plus compliqué. Et ça a été le cas.
Et selon toi, quel est le rôle d'Internet dans l'accélération de cette dynamique ? On peut quand même dire que, on va dire, que ce soit Internet ou même le côté facilité d'avoir des home studios, ça a été un gros atout pour le mouvement techno. Après, est-ce qu'il y a eu aussi peut-être des défauts ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Alors, le premier défaut, c'est que avant, une production, elle passait entre guillemets entre plusieurs mains. C'est-à-dire que le titre, il y avait l'agent, il y avait le producteur de. Il y avait 3-4 personnes qui pouvaient avancer. Aujourd'hui, il y a une surproduction parce que tu passes entre le studio et la vente, il n'y a quasiment plus personne. Donc il n'y a plus une forme de filtrage de la production. L'Internet a bien sûr permis à des gens de se faire connaître. Mais je suis pas sûr que aujourd'hui, du jour au lendemain, entre guillemets, comment dirais-je, je pense que c'est plus dur de sortir aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Parce qu'il y a 20 ans, tu multipliais, j'étais agent à ce moment-là, on faisait tourner des DJ et au fur et à mesure, les DJ progressaient en notoriété. Si on regarde un peu la programmation du Rex, comme phare, c'est souvent des producteurs.
Ouais.
Il n'y a plus de DJ. Avant, il y avait des DJ qui faisaient, ils étaient producteurs, qui faisaient des productions. Si on prend des vieux de la vieille, mais des Jacques de Marseille, des Tonio, comment dirais-je, Christ de Montpellier qui nous a quittés malheureusement. Voilà, c'est des DJ à la base. Et après, ils ont fait des disques. Ils ont fait des productions. Mais c'est pas des producteurs qui sont devenus DJ. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça, c'est plutôt des producteurs qui deviennent DJ.
Parce que c'est le seul moyen de défendre leur musique en public.
Ouais, c'est ça. Avant, les concerts, les rock, ils font de la scène, ils font des tournées. Maintenant, voilà, ils sortent un disque et après, ils deviennent DJ. Voilà. Pour gagner de l'argent. Parce que c'est pas avec les disques qu'aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. Ça, c'est.
Oui, bah oui, oui.
C'est un moyen de promotion plus qu'un moyen financier.
Ok, ok. Et les dernières questions vraiment pour conclure. Comment tu vois, toi, le mouvement techno dans les 5-10 années à venir? Comment ça va évoluer selon toi?
Tous les moyens sont là pour la populariser. Et maintenant, c'est la musique électronique, il est dans le paysage. Maintenant, c'est de savoir si en France, il y a moyen de remettre de la scène électronique un peu costaud un peu partout. Ça, c'est pour qu'il y ait une génération qui perdure. Aujourd'hui, les clubs en France ferment à tour de bras. Il y a de moins en moins de clubs discothèques en France. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Parce que si on n'a plus de lieu de diffusion et lieu pour que les DJ s'expriment, ça va devenir très compliqué.
Ok, ok. Donc, c'est ce que tu souhaites, ça serait plus de soirées, plus de clubs pour l'avenir.
Bah oui, c'est aussi et de soirées. Là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on revoit des DJ qui avaient plutôt disparu. On les revoit revenir. Par exemple, je pense à Pimour qui tourne beaucoup en ce moment. C'est un gars qui a un vieux de la vieille. Et là, on est vraiment dans le DJ pur, quoi. DJ pur. Il n'y a plus vraiment de DJ pur aujourd'hui.
Okay,
ça, ça me saute pas aux yeux comme ça, quoi.
Ouais, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Eh bien, je te remercie, Lionel, d'avoir répondu à toutes nos questions.
Mais c'est un plaisir. BLP Radio.